Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin, invité politique, est Marielle Lemaître, candidate du Nouveau Front Populaire au second tour des législatives dans la 5e circonscription des Côtes d'Armor, la circonscription de Lannion-Paimpol. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Stéphane.
Alors, on va parler évidemment de politique. La dernière ligne droite, deux jours avant le verdict des urnes, on est dans quel état d'esprit ? Dans quel état d'esprit vous êtes là ce matin et depuis quelques jours, avec quand même, on sent une certaine pression qui monte.
En fait, plus déterminé que jamais, avec l'ensemble des forces du Nouveau Front Populaire, on est sur le terrain tous les jours, dès 6h du matin pour certains d'entre nous, sur les ronds-points, à la gare, mais aussi sur les marchés, pour aller rencontrer tous nos électeurs qui sont pour certains perdus, effrayés par la montée de l'extrême droite partout en France, mais particulièrement en Bretagne, où on n'était pas habitué à ce profil politique. Et donc, c'est important de pouvoir rencontrer chacun et pouvoir porter un programme d'espoir, un programme de changement qui rejoigne à la fois ceux qui sont en colère et avec légitimité complète contre la violence de la politique néolibérale macroniste depuis 7 ans, contre laquelle M. Botorel n'a pas du tout réussi à protéger la circonscription, la destruction de l'hôpital, les services publics en est la preuve. Et donc, rejoindre tous ces mécontents, toutes ces personnes qui ont du mal à vivre aujourd'hui, et leur présenter les solutions aux problèmes plutôt que des boucs émissaires.
Alors, on aura une triangulaire à Lannion, Lannion-Paimpol, donc sur cette circonscription, cette 5e circo, comme l'on dit, des Côtes d'Armor. Vous avez décidé de ne pas vous retirer, finalement, de continuer à être dans la course.
Après le premier tour, très vite, le Nouveau Front Populaire a pris la position très claire de retirer tous les candidats du Nouveau Front Populaire qui étaient en troisième position pour éviter... Que le risque d'un député RN à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc, moi j'étais deuxième, je suis deuxième. C'est la raison pour laquelle je suis toujours là, pour opposer au programme macroniste que propose Monsieur Botorel un programme de rupture et de changement.
Alors, programme de rupture, programme de changement, il y a une attente des Français. Vous le disiez hein, tout à l'heure, il y a une grande colère. On a vu les Français, on a vu les Bretons, effectivement, voter pour le Rassemblement national avec le risque quand même d'une forte participation du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, hein, avec les projections qui sont déjà... Alors, on ne va pas agonir nos auditeurs, nos auditrices de chiffres, mais il y a des projections qui donnent quand même le Rassemblement national très présent à l'Assemblée nationale, mais néanmoins sans possibilité d'avoir une majorité absolue. Est-ce que pour vous, c'est déjà un premier combat de gagner ?
C'est déjà un premier combat de gagner. Et là, au second tour, on a eu 32 députés du Nouveau Front Populaire qui ont été élus dès le premier tour. Nous sommes 330, plus de 330, près de 340 candidats à être maintenus pour le Nouveau Front Populaire pour le second tour. La majorité, c'est 289 députés. On a largement la possibilité de gagner cette majorité à l'Assemblée nationale et faire demain, là, le 8 juillet, une assemblée nationale républicaine dans l'intérêt de tous les citoyens en votant pour les candidats Nouveau Front Populaire. D'ailleurs, l'ensemble des forces politiques locales appellent à voter pour l'ensemble des forces politiques de gauche appellent à voter pour les candidats du Nouveau Front Populaire.
Alors, le Nouveau Front Populaire pourrait changer la donne. Alors, il y a des craintes, il y a des peurs. On entend, hein, on lit sur les réseaux, il y a la peur de voir arriver Jean-Luc Mélenchon. Alors, il était en interview hier soir chez nos confrères de TF1. Voilà, il s'est montré assez serein sur la question. Mais on peut imaginer demain Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et on peut imaginer que ce soit difficile au niveau des rapports avec Emmanuel Macron, président de la République.
En effet, je pense que pour le l'après-second tour, si nous avons les forces du nouveau Front populaire, la majorité à l'Assemblée nationale, il faudra un Premier ministre qui ait la carrure, l'envergure, la solidité pour porter notre programme de rupture. Face à Emmanuel Macron, face aussi à une opposition qui restera forte malgré tout, même si nous avons la majorité, nous portons un programme social et écologique que ne défend pas le Rassemblement national. Le Rassemblement national, qui sera l'autre force de l'Assemblée nationale, a un programme anti-écologique et un programme social complètement évaporé. Ils ne savent plus où ils habitent. Ils ont l'impression que là maintenant, enfin, le masque tombe. Le mensonge sur leur programme social est en train de s'effondrer. On dévoile maintenant une réalité. Ils n'ont pas de programme social. Donc, nous qui avons ce programme, nous allons devoir avoir quelqu'un qui sera en mesure de faire front populaire, à ces deux opposants, le chef de l'État et une forte majorité. Alors maintenant, moi, je pense qu'il nous faut quelqu'un qui ait cette carrure, qui ait cette sérénité. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit dans la liste de ceux qui seraient premier ministrable. Nous avons des forces vives dans toutes les forces du nouveau Front populaire et des personnalités qui auront cette qualité, j'en suis certaine.
Voilà, le choix restera à faire.
Ouvert.
Le moment venu est ouvert. La campagne électorale devient de plus en plus tendue avec des intimidations, parfois des agressions. On l'a vu encore avec la porte-parole du gouvernement il y a deux jours. Comment vous vivez ce climat? Est-ce que vous avez été victime, par exemple, d'intimidations, de pression, comme l'on dit?
Non, aucune. Aucune intimidation. Après, des interpellations, oui, sur les marchés. On a vu déjà dès la campagne des européennes des propos, des interpellations, je dirais, agressives, de l'agressivité, décomplexées. Hier soir, j'étais à la réunion publique organisée par Muriel Levrault sur la 4e, et son suppléant, Tanguy Kazumba, est un franco-congolais. Et il disait que depuis le début de la campagne, il subissait des commentaires racistes, et pas seulement en campagne, même simplement dans la rue.
La parole se libère finalement, la violence, je mets les guillemets quand même, qui s'impose, mais se libère.
Elle est décomplexée, oui, elle est décomplexée. On entend, c'est comme si le racisme n'était plus vraiment considéré comme un délit, alors que ça l'est. Monsieur Le Boulanger a tenu ici des propos clairement racistes qui sont complètement indignes du mandat qu'il sollicite. Un mandat républicain, représenter tous les citoyens de sa circonscription. Et parmi les 30% d'électeurs qui lui ont fait confiance au premier tour, je crois que là, il les a complètement humiliés en tenant ces propos ridicules, absurdes, et pour lesquels on pourrait légitimement déposer plainte.
Alors Jean-Yves Le Boulanger, je le précise pour nos auditeurs qui n'étaient peut-être pas à l'écoute, le 18 juin s'est exprimé dans le cadre évidemment de l'entretien politique de la matinale comme nous le faisons ce matin avec des propos effectivement qui ont été relevés par un confrère de Lannion et qui ont fait le tour du web et le buzz comme l'on dit autour de ces propos qui ont été considérés comme racistes. Alors il s'est excusé et il est convoqué devant la commission du Rassemblement National. Là c'est pour préciser. On entend beaucoup de choses d'ailleurs sur les candidats du Rassemblement National, autant d'ailleurs que sur les candidats du Nouveau Front Populaire. Il faut faire le tri parmi les candidats, il y en a quelques-uns qui ne sont pas recommandables, quel que soit le camp du reste.
Au niveau du Nouveau Front Populaire,
oui.
Non, je pense que tous les candidats qui ont été investis sont porteurs des valeurs du programme. Par contre, concernant les candidats du Rassemblement National, je crois qu'ils sont plus d'une centaine, près de 200, à avoir tenu des propos racistes ou avoir eu des comportements racistes. Clairement, pour certains, avoir été condamnés, ils ont été obligés de retirer leur candidature. Je peux parler pour la France Insoumise. À la France Insoumise, Personne n'a jamais été condamné pour des propos antisémites. Personne n'a jamais été condamné pour apologie du terrorisme ou de la violence. Donc, il y a clairement là-dessus une vérité à rétablir. On a d'un côté un parti d'extrême droite. C'est comment le Conseil d'État qui le dit. Et d'un autre côté, un parti républicain. La France insoumise n'est pas un parti d'extrême droite. Donc, d'extrême gauche.
D'extrême gauche, pardon. Oui,
et encore moins d'extrême droite, mais certainement pas d'extrême gauche. Voilà. Nous sommes un parti républicain qui défendons des valeurs républicaines avec des personnes qui n'ont jamais été condamnées pour des propos antisémites, racistes ou d'apologie du terrorisme.
Alors, il y a quand même un fichier S hein, dans le lot. Est-ce que ça pose problème, justement ?
Il y a beaucoup d'écologistes qui sont fichés S. Hein. Voilà, parce qu'on a aujourd'hui une répression des mouvements citoyens qui font qu'à partir du moment où vous conduisez une action pour défendre, par exemple, la 69, lutter contre le projet de la 69 ou lutter contre le projet de méga-bassine, vous êtes tout de suite fiché S. Si vous êtes actif dans ce mouvement. Donc oui, chez les écologistes aussi, on a beaucoup de fichés S.
Alors, au soir de dimanche, au soir du 7 juillet, il y aura une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Il va y avoir aussi une grande contestation. On entend les autorités, on entend les services de renseignement qui craignent que la rue s'embrase si d'aventure, par exemple, le Rassemblement national arrivait en tête. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez aussi, la colère populaire ?
Ce que j'ai constaté dès le premier samedi, après l'annonce de la dissolution, c'est une grande mobilisation populaire. C'est-à-dire que le nouveau Front populaire, ce sont des partis politiques qui se sont unis et qui ont tenu à gauche dans cette union, à la fois au niveau local et au niveau national, contrairement à l'idée, je suppose, de monsieur Macron, qui avait choisi de complètement bordéliser notre vie politique avec cette dissolution. Il le dit lui-même.
C'est en train de lui échapper, finalement.
Ce que je voulais dire, c'était que c'était un acte violent, encore un acte violent contre la République. Il a clairement dit « j'ai balancé une grenade dégoupillée dans leurs jambes ». Dans leurs jambes, dans les nôtres. Ben voilà le président de la République qu'on a depuis 7 ans. Donc la bordélisation et la violence, l'aggravation de la violence du discours politique, elle est bien de ce côté-là. Ça paraît très clair pour moi de le poser. Et donc, pour la suite, on a vu face à ça une mobilisation citoyenne, pacifique, non violente, mais déterminée et forte. Et au-delà même des forces politiques, c'est-à-dire que ce sont les mouvements syndicaux, ce sont les associations de défense des droits de l'homme, ce sont tous ces mouvements citoyens qui se sont mobilisés et qui ne vont pas lâcher cette mobilisation, quoi qu'il arrive dimanche. Cette mobilisation va durer et on continuera à défendre ensemble les valeurs de la République sur tous nos territoires. Ça, c'est certain.
Alors,
et ça me donne de l'espoir, pas de la peur.
Voilà. Concernant Emmanuel Macron, il a perdu la main, comme l'on dit, ça lui échappe tout ça.
Je pense que à l'issue du vote des européennes, où il a été obligé de constater que de tous côtés s'exprimait un rejet de sa politique, rejet légitime, compréhensible et légitime. Enfin, les Français expriment que non, c'est terminé. On n'en veut plus de cette austérité qui nous éreinte, qui nous épuise, qui nous appauvrit, alors qu'on est la 7e puissance mondiale économique. Il n'y a pas lieu qu'on soit en risque vital parce qu'on n'a pas le médecin, on n'a pas l'hôpital ouvert quand on en a besoin. Donc, le rejet de sa politique. Au lendemain de ça, il décide de faire exploser la droite et la gauche pour pouvoir se présenter à nouveau comme le seul capable de faire rempart au Rassemblement national, et ça n'a pas marché. ça n'a pas marché parce qu'à gauche, on est resté unis et on a une proposition forte pour une politique qui apporte de vraies solutions aux besoins réels des gens aujourd'hui pour que la vie change. Voilà. Donc, il a raté son coup. Donc, maintenant, à nous, chers citoyens, à vous de nous donner le pouvoir pour qu'enfin, on change les choses.
Alors, vous voulez changer les choses sur nombre de domaines. Alors, on ne va pas tous les balayer ce matin. On les a évoqués hein, très souvent dans la matinale. Sur cette très courte campagne, il faut le dire, nous aussi, on avait un peu de mal à s'organiser, il faut bien le préciser. Mais des domaines essentiels, vous avez parlé tout à l'heure, Marielle Lemaître, du pouvoir d'achat, du logement, parce que c'est important aussi, la crise du logement est ici, particulièrement en Bretagne, nous sommes dans une zone très tendue. Et la santé, aujourd'hui, ça préoccupe aussi les Français, la santé. Vous faisiez allusion à l'hôpital de Guingamp, de Lannion. Aujourd'hui, la santé est j'allais dire presque en urgence. C'est-à-dire concrètement lundi prochain, le 8 juillet, ce sont ces dossiers-là qui seront prioritaires.
Bien sûr, en priorité l'hôpital, sauver l'hôpital pour l'été qui arrive. Nous, on a la chance ici d'avoir une des plus belles circonscriptions de France.
Allez, un peu de chauvinisme.
Ouais, allons-y. Trégor-Goëlo, une côte magnifique, une campagne très, très jolie aussi. Enfin bref, on attire du monde. Donc, on va multiplier notre population pendant l'été, comme chaque été. Notre hôpital est en crise. Donc, c'est urgent pour cet été de donner les moyens à l'hôpital d'accueillir tous les patients qui auront besoin d'être pris en charge. Donc ça, c'est la première urgence. Ensuite, évidemment, ce sera donner des moyens et restructurer l'offre de soins par la régulation de l'installation des médecins traitants sur l'ensemble du territoire. Les médecins, on en manque, mais on en a aussi. Il y a des zones qui ne sont pas du tout en souffrance, contrairement à la nôtre. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir réguler l'installation des médecins traitants. Mais surtout, ce que je voulais dire par rapport à notre programme, ce qu'il est urgent de faire, c'est de rétablir les services publics parce que les systèmes économiques a besoin du service public. C'est la directrice de la Technopole Anticipa de Lannion qui me disait ça. Pour pouvoir maintenir le développement économique qu'ils soutiennent de façon très dynamique et très forte sur Lannion, c'est la Technopole Anticipa, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils ont besoin de quatre choses, m'a-t-elle dit. Ils ont besoin d'accessibilité au territoire, ils ont besoin de logement, ils ont besoin d'un système de santé pour leurs salariés et ils ont besoin de formation. Ces quatre choses-là, c'est du service public. Et c'est elle qui le dit, c'est-à-dire que notre programme, non seulement il est réaliste, mais en plus il est souhaitable. C'est-à-dire que si on veut soutenir notre développement économique, on a besoin de soutenir nos services publics. Et la logique de Macron, c'est de donner de l'argent aux plus riches. Il y a un élu qui m'a parlé de ça, c'est un élu qui se bat pour les EHPAD et qui m'a dit je n'ai plus qu'un mois de salaire dans mon budget, je n'ai plus qu'un mois de salaire pour les salariés de l'EHPAD devant moi. On est à la moitié de l'année.
Mmh. On n'a pas parlé du grand âge, mais c'est aussi une préoccupation.
Oui, voilà, nos aînés sont maltraités dans nos structures. Ce n'est pas parce que les professionnels de ces structures sont de mauvaise volonté, absolument pas. Au contraire, ils sont malheureux eux-mêmes, ils sont en souffrance, comme à l'hôpital ou comme dans les services sociaux. Ils sont en souffrance de ne pas pouvoir faire leur travail comme ils souhaiteraient le faire, c'est-à-dire dans l'intérêt des personnes, simplement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais
voilà,
dire.
Voilà, je vous ai un petit peu coupé, pardonnez-moi. Voilà, on parlait effectivement de ces difficultés à avoir des services publics sur le terrain, services publics qui sont nécessaires, particulièrement effectivement dans la santé, dans le grand âge, et aussi pour le tissu économique et la formation.
Oui, voilà. Tous les maires et toutes. J'ai rencontré aussi des agriculteurs, j'ai rencontré un ostréiculteur, j'ai rencontré des représentants des salariés du bâtiment. Et tous sont sur cette même ligne qu'on a besoin de soutien et on a besoin de salariés qui s'installent et qui restent. Donc ça veut dire, notamment dans l'hôtellerie, la régularisation des travailleurs sans papier. De façon à leur donner une stabilité parce que leurs employeurs ont besoin d'eux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, toutes les TPE, PME, donc qu'on retrouve aussi en agriculture, ont besoin de soutien, d'un soutien économique pour pouvoir envisager la politique qu'on propose et avec laquelle ils sont souvent d'accord, de sécuriser leurs salariés en augmentant les salaires. Augmenter les salaires, ça veut dire augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et ça veut dire aussi augmenter les cotisations pour renforcer notre système de sécurité sociale. Mais ça veut dire, pour les TPE-PME, augmenter ce qu'ils appellent des charges. Mmh. Et donc là, c'est pour ça que notre programme prévoit de compenser cette augmentation par des aides publiques, apporter des aides publiques aux TPE-PME pour pouvoir relancer l'économie par l'augmentation des salaires.
On a le sentiment, en écoutant votre programme, qui est très social, d'une forme de grand plan, comme on a pu en avoir jadis du temps du général de Gaulle, où l'État était un peu interventionniste et disait, voilà, le cap à suivre. Est-ce qu'on a perdu, justement, au fil des ans et de l'exercice de la politique, cette projection dans l'avenir et aussi cette idée de dire, voilà, on va un petit peu contingenter, régenter les grandes lignes pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter.
On sort de 7 ans de néolibéralisme et le néolibéralisme, c'est la lutte contre l'État social, mais le renforcement de l'État répressif. Donc, on a une vision de l'État aujourd'hui qui n'est pas une vision d'un État protecteur. On a même complètement décrédibilisé cet État providence en disant... Mais en même temps, c'est le rôle de l'État de s'occuper des citoyens, de tous les citoyens, et de garantir nos principes républicains qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ça veut dire... ça ne veut pas dire ce que dit M. Macron, je donne aux plus riches. Et c'est ça que je me souvenais, la formule du maire, c'est que M. Macron nous promet le ruissellement, il nous a juste apporté l'assèchement. C'est-à-dire qu'il a aspiré les richesses pour les donner aux plus riches, et puis ça a asséché nos moyens ici en local. Donc le rôle de l'État, c'est de faire revenir cette richesse pour garantir l'égalité sur l'ensemble, l'égalité de droit sur l'ensemble du territoire, qu'on soit quelqu'un de très âgé, qu'on soit quelqu'un d'handicapé, qu'on soit quelqu'un qui travaille. Voilà.
Avec une grande désespérance, une grande colère, ça nous ramène un petit peu au début de la conversation, des Françaises, des Français, des Bretons et des Bretonnes. Allez, on ne va pas oublier les Bretonnes, elles pèsent beaucoup, et dans l'économie et dans la vie. Voilà. On a le sentiment d'une grande désespérance. Ça va être dur de, j'allais dire, raccommoder les esprits, de faire les gens se parler entre eux, de redonner finalement une expérience, comme vous le disiez.
Ben, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce samedi-là, c'était plus de 2000 personnes à Lannion, et c'était, je ne sais pas combien, mais un grand nombre de personnes à Paimpol. Tout ça le même jour, sur notre circonscription, on a vu des gens... au contraire, se parler, chanter et réclamer de l'espoir et y croire et être déterminé à se parler, à se rassembler pour défendre nos droits, pour défendre la liberté, pour défendre les belles idées républicaines que la France porte.
Je lisais sur un réseau social fort connu quelques personnes qui s'exprimaient autour de l'espoir, qui disaient on a aujourd'hui le même espoir. Alors ce sont des personnes qui ont vécu 1981, je le précise pour nos auditeurs, nos auditrices. On est en train de vivre finalement le même espoir que quelques heures avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir le 10 mai 81.
Eh bien, écoutez, je souscris dès demain. On est en effet à la veille de pouvoir avoir une majorité du nouveau Front populaire dès le 8 juillet et de retrouver une image de la France qui est celle de la confiance, et de la confiance en son prochain, de la confiance en un développement économique qui est réel, mais avec une forte chance pour chacun de participer à cette richesse plutôt que de la capter pour une minorité.
Remettre un peu de collectif dans l'individualisme du moment. On pourrait le traduire aussi comme ça.
Oui, l'individualisme du moment, ben, c'est encore une fois cette politique qui renvoie chacun à sa propre responsabilité dans sa réussite et dans son échec. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse sortir de ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai que quand on est né avec une cuillère en argent dans la bouche, eh bien, on a les mêmes chances que quelqu'un qui est né dans une famille pauvre et avec peu d'accès à la culture ou à la formation. Donc, il faut rétablir cette égalité des chances parce que ce qui est vrai, c'est que qu'on ait une cuillère en argent dans la bouche ou pas, on est un être humain avec une égale capacité à réussir des choses, de belles choses dans la vie. Et ça, ça tient si on a un État qui est capable de nous donner nos chances. Et donc, on n'est pas tout seul à être responsable de nos échecs ou de nos réussites. On a besoin d'un système social qui nous permette de développer tout notre potentiel, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre.
En fait, l'espoir aussi pour la gauche de reconquérir les électeurs, mais aussi plus largement les Françaises, les Français, les Bretons, que la gauche avait peut-être un peu oublié dans les batailles politiques du passé et avait laissé le terrain peut-être au Rassemblement National, par exemple.
Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, ici, on est dans un média libre et indépendant, et bravo, et il ne faut pas oublier l'importance des médias dans la mise en exergue justement de toutes ces luttes politiciennes qui ont plus relayé les polémiques que les idées. Et donc, on a fini par... Enfin, moi, j'ai été frappée par le nombre de personnes en campagne qui me disaient « tous les mêmes, de toute façon, regardez-les, ils sont juste à se bouffer le nez, c'est tout ce qu'ils font ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, sauf que nos médias, qui appartiennent à une poignée de milliardaires, eh bien, nous ont servi la soupe qu'ils voulaient nous servir. Et au lieu de nous informer, au lieu de communiquer sur les programmes des uns et des autres, sur la réalité des actes des uns et des autres, eh bien, ils ont mis en exergue tel ou tel propos et ils les ont montés en polémique. Ce qui a fait perdre confiance en nos politiques et en leur capacité à mener des programmes dans l'intérêt des citoyens.
Nous, on a essayé en tout cas de le faire le mieux possible avec les moyens d'une petite radio régionale. Mais on a essayé en tout cas de donner la parole à toutes, à tous, et quelle que soit la sensibilité politique pour s'exprimer autour de la campagne et des programmes, bien entendu. C'est quand même ça le plus important. Sur les médias aujourd'hui, on a entendu des vérités de privatisation du service public. On entend beaucoup de choses. Demain, le nouveau Front populaire est majoritaire à l'Assemblée nationale. On enterre ces projets-là.
Ben oui, c'est une urgence. On doit absolument protéger nos services d'audiovisuel public, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. C'est une urgence démocratique. C'est une urgence pour préserver nos libertés. Donc, c'est important de pouvoir offrir un modèle de financement et aussi de contrôle pour que nos médias ne puissent pas être récupérés comme des simples instruments de propagande au service des plus riches. Nous devons protéger nos médias parce que c'est une question, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, je pense, c'est une question de garantie de nos libertés et de lutte contre le fascisme.
Et d'indépendance aussi face aux pressions, aux fake news, hein, on en voit beaucoup sur les réseaux. Alors voilà, les vieux médias que sont la télévision, la radio, essaient de continuer.
C'est ça. En fait, je faisais référence à Hannah Arendt qui le dit elle-même, dans la montée du totalitarisme, il n'y a pas de démocratie sans médias libres et indépendants.
Voilà, on observera au lendemain du 7 juillet. Un dernier mot, la campagne va se terminer. Si vous aviez quelque chose à dire là aux électrices, aux électeurs qui sont encore indécis, qui disent « bon voilà, je sais pas ».
Eh bien, je dirais aux électeurs du Trégor Goëlo que j'ai complètement confiance dans leur sagesse parce qu'ils ont analysé la crise, ils ont pour certains exprimé leur colère, pour d'autres leur peur. Et aujourd'hui, c'est important de faire un choix pour que les choses changent. Et le programme du Nouveau Front Populaire est le seul à porter ce changement, que ce soit au niveau économique et social. Donc voilà, je fais appel à votre sagesse.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, qu'on referme aussi la campagne électorale sur Bretagne 5, puisque à partir de ce soir minuit, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. On attendra donc les résultats de dimanche. Marielle Lemaître, candidate du Nouveau Front Populaire au second tour des législatives dans la 5e circonscription des Côtes d'Armor, Lannion-Paimpol, alors paraît-il la plus belle circonscription. Bon, voilà, il faudra discuter avec vous, vos autres collègues des autres circonscriptions. Était avec nous ce matin. Je vous remercie d'avoir été en direct et je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.